Perché non sa voler bene?
Perché non è vero che una donna possa cambiare un uomo.
Perché non sa voler bene?
أنت لاعب الكرة. هل تعرف أن الكرة محرمة؟
You know, I don't see what there is to be cagey about, Mr. Marlowe. And I don't like your manners.
Well, I'm not crazy about yours. I didn't ask to see you.
Mais recueillons-nous plutôt devant l'image de souffrance de ce beau visage de prédateur des montagnes. Bon.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor d'étoiles plein les yeux et bonsoir à toi Occitane.
Bonsoir Rémi. Au programme cette semaine, trois films hauts en couleur. D'abord, Laissez bronzer les cadavres d'Hélène Katté et Bruno Forzani, un film de gangsters hallucinatoire et tarantinesque. En parlant d'hallucination, vos chroniqueurs sont aussi allés voir pour vous Au revoir là-haut d'Albert Dupontel, conte grand guignolesque sur l'immédiate après-guerre après Première Guerre mondiale. Et pour terminer, un film de super-héros, Thor Ragnarok de Taika Waititi, qui semble emprunter la même voix pop et multicolore que les Gardiens de la Galaxie. Des toiles plein les yeux aux couleurs de l'arc-en-ciel, donc, pour ce 73e numéro, et nous sommes avec Thomas et Maë pour en parler. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir. Bonsoir, Occitane.
Et on commence donc sans plus tarder avec notre premier film, Au revoir là-haut d'Albert Dupontel. Alors Occitane, un petit résumé peut-être pour nos auditeurs.
Alors en fait, dans Au revoir là-haut, ça se passe juste après l'armistice. Deux rescapés des tranchées, Édouard, gueule cassée, et Albert ne parviennent pas à se réintégrer à la société française qui semble ne plus vouloir d'eux. Là où leur supérieur, le lieutenant Pradel, criminel de guerre, parvient à s'enrichir grâce au fructueux commerce des sépultures de soldats. Édouard choisit de ne pas retrouver sa riche et influente famille et de monter une arnaque au monument aux morts en surfant sur la tendance, rendant le duo et leur petite protégée Louise fabuleusement riches. Alors du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé,
Thomas?
Moi j'ai bien aimé, mais il m'a manqué certaines choses pour être vraiment transporté dedans, même si j'ai passé un très bon moment et que c'était vraiment agréable, toute cette esthétique... De la fête et de la remise en question aussi de toute la dure réalité de la guerre, avec toute l'esthétique des masques et l'esthétique du dessin qui est vraiment super bien. Mais je pense que j'aurais voulu que le film, et après c'est moi, mais j'aurais voulu que le film aille justement plus loin dans toutes ces choses de masques et de grand guignol, comme tu le disais en introduction, et que on soit vraiment emporté dans un travestissement du réel qui m'aurait plus. Enfin, j'ai pas été. Mon réel n'a pas été assez travesti pour que j'apprécie. Enfin, après, c'était mes attentes du film. Hein, mais...
Eh ben, moi, j'ai peut-être pas été transporté non plus par le film, parce que c'est pas forcément le film qui éveille des transports monumentaux, mais j'en suis sorti avec l'impression d'avoir. Juste vraiment vu du bon cinéma populaire, c'est-à-dire quelque chose qui fait tout ce qu'il fait bien, le fait même très bien, n'a aucune prétention à une démarche particulièrement travaillée, quoi que ce soit, même s'il y a une mise en scène qui est extrêmement poussée, enfin, on sent que ça a été fignolé dans les moindres détails, c'est pas juste de la soupe comme ça qui est un peu bricolée, il y a tout un travail, mais ça reste une grande simplicité, une simplicité qu'on aime bien chez Dupontel, et avec une mise en scène qui nous emporte quand même, elle nous transporte peut-être pas, mais elle nous emporte quand même avec elle. Et il y a un rythme, une simplicité dans ce film que j'ai trouvé extrêmement rafraîchissant, tout en gardant un côté quand même très très mordant lorsque Dupontel s'y met, et lorsqu'il décide d'être un petit peu mauvais avec ses personnages secondaires, dont il faudra qu'on reparle parce qu'on a une galerie de personnages secondaires absolument incroyable.
Oui, tout à fait, enfin, c'est vraiment une... Enfin, je te rejoindrai assez là-dessus, Thomas. Je trouve que j'ai beaucoup aimé ce côté conte, un petit peu une réalité comme déformée par... alors, on ne sait pas vraiment si c'est simplement à travers le regard de ces soldats à qui tout paraît totalement absurde dans un monde qui devient totalement dadaïste. Et d'un autre côté, c'est vrai que j'ai trouvé que ça n'allait peut-être pas assez loin, enfin, contrairement à ce que la bande-annonce pouvait laisser supposer, de quelque chose totalement délirant avec notamment la scène de la soirée au Lutetia qui est dans la bande-annonce et qui, je trouve, constitue un moment qui m'a particulièrement plu dans le film, mais j'aurais cru que tout le film serait de, de cette trempe-là, quoi.
Je suis tout à fait d'accord avec ça. Enfin, la bande-annonce, après, c'est le piège des bandes-annonces, mais justement, cette scène, moi, m'a fait miroiter tout un film entier comme ça, enfin, comme toi, quoi. Et c'est vraiment la bande-annonce qui m'a donné des attentes, en fait, je pense.
Moi, c'est quelque chose qui m'a pas du tout gêné au niveau du, au niveau du rythme et peut-être des prétentions du film à... Alors, c'est une grande scène de fête n'aurait pas détonné au milieu de ce film, mais j'en ai pas ressenti le manque particulièrement. Je trouve que Dupontel réussit justement très très bien à alterner des scènes qui parfois sont quand même assez longues avec un dispositif de mise en scène parfois un petit peu lourd. Enfin, y a cette scène de guerre aussi au début qui est un petit peu à part dans le film et qui était un exercice un petit peu périlleux dans ce genre de film. Et puis pour ce réalisateur, c'est pas vraiment le genre de scène qu'on attend à voir réalisée et qui, je trouve, est vraiment impeccable, cette scène. Enfin, y a vraiment rien à redire et il se débrouille super bien avec des travelling qui sont assez impressionnants.
Oui, c'est ça. Et puis elle fait très réaliste, contrairement à tout le reste du film. Enfin, y a comme une espèce de basculement du régime des images à partir du moment où le personnage de Dupontel se retrouve enterré. Et quand il ressort, on a l'impression qu'il c'est une espèce de Lazare comme ça, mais qui a une vision de la réalité qui devient totalement biaisée et un peu dingue. Et on se demande si justement tout le film, on n'est pas dans un regard de quelqu'un qui n'appartient plus vraiment à ce monde-là, un peu comme un personnage à la Louis Aragon, quand, après avoir été enterré plusieurs fois vivant sur le front, qui ressort et qui a une vision du monde d'une espèce d'inspiration poétique qui le rapprochera rapidement des surréalistes, quoi.
Ouais. Une inspiration poétique de ce personnage de Dupontel qui est aussi dans la référence permanente à Buster Keaton et Charlie Chaplin, dans son costume trop grand, ce costume jaune.
Et puis son canotier,
etc. Il y a vraiment... Il y a un certain nombre de références complètement assumées dans ce film, et on sent aussi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans cette démarche, qui consiste pas à faire de la citation pédante, mais vraiment de la référence assez humble de la part d'un Dupontel qui se prend jamais complètement au sérieux. Mais donc il y a toute cette référence, oui, au cinéma muet qui est très très agréable autour du personnage qu'il incarne lui-même. Il y a aussi, pendant qu'on parle de référence, toutes les références à un univers artistique. Mmh. Ça passe entre autres par les masques. Bon, entre autres, il y a les Demoiselles d'Avignon et un certain nombre de références qui à chaque fois sont complètement explicites et donnent un petit côté... Enfin, disons qu'on a l'impression de voir plein de petites images enchâssées dans ce film qui nous maintiennent en éveil, qui font aussi plaisir à voir, tout simplement.
Oui, qui contrastent vachement avec un certain nombre de personnages qui sont très sombres et qui incarnent les travers de cette société, notamment le lieutenant Pradel.
Oui, alors qui Lafitte dans un rôle d'ordure absolue.
Ah, oui.
Et qu'est-ce qu'il est doué sans compromis, avec une fin... dont le ridicule est à la hauteur de ce personnage odieux et qui est aussi un retour sur la première scène. Enfin bon, on vous raconte pas tout, mais il y a ce personnage, oui, de Laurent Lafitte qui est vraiment le mauvais génie perpétuel de ce film. Ouais, ce personnage et toute la mise en scène du film en fait m'ont fait penser tout au long du film au Grand Budapest Hotel de Wes Anderson.
Oui,
il y a vraiment cette idée du personnage qui est dans une espèce de trac parce qu'il sert qu'à ça dans le film, mais qui revient nous réveiller et réveiller les personnages à chaque fois qu'il apparaît. Bon, la mise en scène à la Wes Anderson, elle est là un peu partout, ne serait-ce que dans ces travelling très rapides qu'il y a en permanence, dans les cadrages un petit peu bizarroïdes, dans la façon dont les intérieurs sont filmés.
L'utilisation des objets aussi.
Oui. D'ailleurs, à propos de Pradel, en fait, au début, j'avais peur qu'on le suive. Quand on commence à voir ses premières scènes post-Première Guerre mondiale, quand il va dans le cimetière en sautant à pieds joints sur les tombes, j'avais peur qu'on le voit en fait après sans aucune raison. Mais ce qui est vraiment bien, c'est que le film arrive à remotiver sa présence à chaque fois, notamment avec le plot twist de en fait il a épousé la sœur de c'est Édouard.
Oui.
Oui, c'est la sœur d'Édouard. Et ce plot twist
qui
donne lieu à... De quoi ?
C'est Eugène, en fait.
Enfin, c'est Édouard, mais qui ensuite prend l'identité.
Et qui donne lieu à une scène avec Dupontel que moi, je trouve super drôle. Dupontel qui se rend compte qu'il est au milieu d'une nouvelle guerre en préparation avec Pradel qui arrive et il l'évite. Enfin, je trouve que le film, du coup, remotive bien son méchant, du coup.
Ouais. Et puis, on peut pas parler des personnages secondaires sans parler du père de ce Édouard Eugène qui... est joué par Nils Arstrup et Enfin, cet acteur livre un numéro absolument époustouflant, comme chaque fois qu'il joue, de toute façon. Enfin, il nous prouve une fois de plus que c'est l'un des plus grands acteurs français en vie, mais c'est vraiment incroyable à quel point il réussit pendant tout le film à maintenir son image de
vieux
bloc
lion.
De méchanceté aigrie, et qui, par la simple petite fissure d'une lèvre qui tremble sur sa dernière apparition, réussit à plonger le film dans un sommet d'émotion,
oui.
Assez d'une innocence totale, en fait. Et il y a vraiment cette avant-dernière scène qui atteint une espèce de stade de sublime dépouillé auquel on ne s'attendait pas du tout, et qui, là, pour le coup, nous emporte complètement. Mm. Et d'ailleurs emporte complètement l'un des personnages qui est submergé par
puis
par
qui emporte la narration elle-même, c'est-à-dire oui. que tout le film se résout sur ce point d'orgue là.
Oui. Et puis bon, bien sûr les acteurs principaux aussi, enfin Nahuel Pérez Biscayart qu'on voit assez peu finalement puisqu'il est caché derrière ses masques, mais qui a toujours une gestuelle
et puis un regard, enfin un jeu
éloquence, et puis oui son jeu avec le regard à travers les masques qui brille comme ça, oui. Ouais. Enfin voilà, donc bon, moi un film qui m'a quand même vraiment beaucoup plu et qu'en ce qui me concerne je vous conseille vivement d'aller voir, chers
oui,
auditeurs.
Moi aussi je le recommande assez il est...
Ah oui, je pense qu'on pense à un très bon moment mine de rien quand même. Après, c'est moi qui suis aigri, hein, mais je pense que c'est quand même un très bon film.